Alors dans un premier temps, eh bien, il faut allumer tout le dispositif avec une petite multiprise qui se trouve juste en dessous, ici. Voilà. Alors, ça met à peu près, je dirais, une petite trentaine de secondes. Et quand le Raspberry Pi est démarré, il y a toute une séquence d'initialisation, notamment pour les aiguilles, pour les mettre toutes dans la même position. Je te laisse écouter, c'est assez satisfaisant.
Initialisation du système GLR FMA, veuillez patienter. Module chargé. Salut, moi c'est Anna, la voix de GLR FMA. Nous te souhaitons, Manu et moi, la bienvenue dans Audio de bord.
Audio de bord. Écoutez, découvrez, voyagez. Un podcast immersif produit par DPK Prod.
Alors laisse-moi te présenter très brièvement un petit peu ce qui se trouve devant moi. Un réseau partie inférieure que j'ai terminé, donc une grande boucle, un grand ovale, avec au milieu 12 voies de garage, dont deux très longues. Les voies K et L sont des voies qui mesurent à peu près 2,10 m, 2,15 m. Et les voies de A à J sont des voies qui mesurent à peu près 1,35 m, je crois, de mémoire, et 50 cm. Et puis, au plus proche de moi, juste devant moi ici, une voie de programmation, la voie de programmation qui me sert bien évidemment à programmer un de mes trains, notamment quand on reçoit un nouveau train. Je sais pas si tu te souviens, dans les premiers épisodes que j'ai fait, je t'expliquais donc que un train est commandé par une adresse principale qui est le CV1 au niveau de son décodeur. Et ce CV1, quand on reçoit un nouveau train, il est attribué 3. Et l'idée, c'est quand tu poses ton train sur cette voie-là, tu peux changer la valeur de ce CV1 pour pouvoir piloter chacun de tes trains de manière indépendamment. Si j'avais le malheur de mettre tous mes trains en 3, eh ben, j'aurais tous mes trains que je pourrais piloter simplement avec mon CV1 en valeur 3. Ce qui n'a pas vraiment de sens. Que te dire de plus sur l'architecture ? Là, il s'agit bien évidemment de la partie basse. Hein, pour l'instant, la partie basse est terminée. Quand j'aurai bien avancé sur mon application, m'attellerai, et puis quand j'aurai mis un peu d'argent de côté aussi, parce que ça coûte cher, je continuerai sur la partie haute. Un gros morceau à venir, c'est ma rampe hélicoïdale qui sera ici côté droit, et le plateau du haut qui est déjà construit, mais bon, voilà, il faut poser les rails dessus, il faut tirer des câbles, c'est tout un petit chantier, mais probablement beaucoup moins important que le plateau du bas, puisque le plateau du bas, comme je te le disais, pour l'instant, je crois qu'il y a 14 cantons et 13 aiguilles. Donc toi, autant me dire que ça fait du câblage. Au niveau du module de commande, hein, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Il est constitué tout d'abord, donc sous le plateau, on peut trouver un Raspberry Pi, donc un nano ordinateur sur lequel tourne l'application. Un Raspberry Pi version 3B+. Avec un Raspbian 12 installé dessus, une petite carte SD de 8 Go, largement suffisante, puis je crois que de mémoire, je vais être à 4 ou 5 Go d'utilisation de la carte. Donc c'est pas énorme. Ce Raspberry Pi est couplé bien évidemment à la Z21 qui nous est pas full accessible. Hein. C'est aussi ma volonté de vouloir développer une application qui puisse nous être accessible à tous. Autant aux personnes déficientes visuelles qu'aux personnes voyantes, à ce Raspberry Pi, donc une petite enceinte qui renverra quelques sons et quelques informations vocalisées. À ce Raspberry Pi aussi est connecté un petit micro-clavier, un micro-clavier sans fil, un truc de gamer que j'ai trouvé sur Amazon. Ça m'a coûté quoi, je sais pas, une vingtaine d'euros, même pas. Et ce truc est vachement bien parce qu'il est vraiment petit. Il mesure à peu près, je sais pas, je dirais 15 cm de large sur 7-8 cm de profondeur et 3 cm d'épaisseur. Sur sa partie supérieure, on a un clavier AZERTY qui n'est pas formaté comme un clavier standard, mais c'est pas grave, quand on sait repérer les touches, et ben c'est parfait. Pour te donner un ordre d'idée, la barre d'espace n'est pas sur la partie inférieure du clavier, elle est sur le côté, enfin voilà, c'est juste des petits changements au niveau des placements des touches qui sont pas extrêmement gênants, parce qu'au final, quand j'attribue mes touches à mes fonctions, et ben ça me permet vraiment de faire quelque chose d'extrêmement ergonomique. Et puis quand tu retournes ce clavier, et ben derrière, tu as une manette de jeu type PlayStation, voilà. Bon, ça, j'ai pas encore mis les mains dessus, mais je suis pas sûr de pouvoir en tirer grand chose. Et puis ça m'intéresse pas beaucoup, parce que de ce côté-là, ben, il n'y a pas beaucoup de touches. Alors que du côté clavier, eh ben, il y a énormément de touches, et ça me permet de configurer mon application extrêmement précisément. Et puis c'est trop cool, j'ai plein de fonctions, ça me permet d'exécuter plein de fonctions, et c'est trop bien. Au niveau de la technologie utilisée dans l'application, donc on a d'abord un côté un petit peu back-end dans lequel on va pouvoir ajouter les locomotives, modifier leurs caractéristiques, ajouter des aiguilles, ajouter des cantons, des itinéraires, configurer les nœuds. Donc cette notion de nœud, on en parlera peut-être dans un autre épisode parce que c'est un peu long, mais concrètement l'idée des nœuds, c'est de déduire où se trouve un train et qui c'est. Parce que pour l'instant, je ne suis pas encore tout à fait en mesure de lire les informations de la locomotive, du canton utilisé. Je sais que c'est possible, mais pour l'instant, c'est encore compliqué. Mais j'avance. En tout cas, pour l'instant, pour définir un itinéraire, donc je le fais à la main en disant, voilà, tu pars de tel canton, tu bascules telle aiguille, et ça te permet d'aller là, ici et là. Après, quand on lance un train sur les rails, eh bien, c'est bien de savoir où il va, surtout quand il y a deux voies parallèles, par exemple, et ça permet d'anticiper le prochain train qui va arriver derrière, de lui dire, bah tiens, là, t'as le train X qui est sur le canton B, ben, on voudrait peut-être mieux basculer l'aiguille pour pas que le train Z arrive lui rentrer dedans, donc le basculer l'aiguille pour que ce train Z aille sur le canton A. Bon, en gros, l'idée, c'est ça, l'idée des nœuds. Donc back-end en PHP, Ajax, donc un peu de JavaScript, et la partie télécommande, là c'est tout en Node.js, donc voilà, c'est deux technos différentes, mais à mon sens qui sont complémentaires, et ça permet vraiment de faire des choses extrêmement intéressantes. Alors, avant de pouvoir jouer avec nos trains électriques, il faut d'abord les enregistrer dans l'application GRFMA. Première chose, on va donc se rendre dans le back-end.
Safari.
Avec son Mac ou son PC.
Ouvrir une.
Dans l'adresse, on va taper GRFMA.
Non sélectionné.
Local.
Non sélection.
Et nous arrivons.
GRFMA, le gestionnaire de réseau ferroviaire miniature accessible, contenu web.
Sur l'interface web de la gestion du module.
Niveau d'entête 2, info Z21.
Donc on peut voir les informations de la Z21 par exemple.
Le numéro de
série,
modèle, colonne 2,
le modèle,
la température, 29 degrés Celsius.
Voilà, 29 degrés Celsius.
État de la centrale, colonne 4.
État de la centrale, si elle est disjonctée ou pas.
Normal, rang 2, colonne
4. Par exemple, là elle est en normal. Et si je prends par exemple mon petit clavier et que je la disjoncte.
Arrêt d'urgence.
Numéro de série, modèle, température.
Voilà, là j'ai mis l'arrêt d'urgence.
Température, état de la centrale, colonne 4. Arrêt d'urgence, rang 2, colonne 4.
Voilà, on est bien en arrêt d'urgence.
Antenne parabolique masquée des infos Z21, étendue, bouton, antenne
parabolique. Je masque ça puisque c'est un rafraîchissement Ajax, et du coup quand c'est, je crois que je rafraîchis toutes les 5 secondes, je crois, un truc comme ça, et du coup ben, ça fait sauter le focus de VoiceOver, probablement des autres lecteurs d'écran comme NVDA ou JAWS, donc... J'ai donné la possibilité de fermer la petite pop-up qui se rafraîchit toutes les X secondes, comme ça, ça gêne pas. Ensuite, on a un petit menu.
Navigation, accueil, bouton.
Donc on a l'accueil.
Matériel roulant, bouton. Appareil de voix, bouton. Itinéraire, bouton. Information de la Z21, bouton. Arrêter le Raspberry Pi, bouton.
Et arrêter le Raspberry Pi, d'accord.
Appareil de voix, bouton.
Si on veut, par exemple, ajouter un appareil de voix de type aiguillage. D'accord, ça se peut. Moi, mon réseau n'est pas terminé. On n'a que la partie basse, mais tôt ou tard, il faudrait que je rajoute d'autres aiguilles pour pouvoir les piloter dans mon application. Donc, je me rends là-dedans.
Niveau d'entête 2, liste des appareils de voix. Navigation, nouvelle aiguille, bouton.
Je valide par exemple soit sur nouvelle aiguille,
nouveau canton, nouvelle liaison,
ou nouvelle liaison. Donc ça, ce sont les nœuds dont je te parlais au début de cet épisode.
Nouvelle aiguille.
Nous, on va ajouter une nouvelle aiguille.
Niveau d'entête 2, nouvelle aiguille. Nom de l'aiguille, obligatoire, donner nom valide, modifier le texte.
Donc là, je peux nommer mon aiguille. Aiguille programmation, par exemple, puisque c'est, je crois que c'est celle-ci qu'on va piloter.
Adresse DCC, obligatoire, donner nom valide, champ chiffre incrit.
Là, on me demande l'adresse DCC de l'aiguille. Donc l'adresse DCC, c'est un petit peu comme le CV1 de notre locomotive. C'est une adresse qui nous permet de piloter notre aiguille. Donc je vais saisir comme adresse DCC 7.
7, insertion.
Voilà. Et
appairer le décodeur, bouton.
J'ai un petit bouton à côté. Donc ce petit bouton a une fonction assez simple, il envoie deux impulsions au décodeur d'aiguille. Donc un décodeur d'aiguille, en fait, c'est un petit boîtier, une petite carte électronique sur laquelle il y a plusieurs sorties. Ces sorties correspondent à différentes aiguilles qu'on va brancher dessus. Et en fonction de l'adresse qui aura été attribuée à cette aiguille à travers le décodeur, eh bien, nous allons manipuler l'aiguille, lui envoyer une information de renversement. Donc, j'ai mis ma valeur 7 comme adresse DCC de mon décodeur. Ça va correspondre du coup à la sortie 7 de mon décodeur numéro 1 qui correspond à mon aiguille de programmation qui est juste à gauche.
S'habiller avec du sable qui coule, initialisation du décodeur en cours. Coche aiguille renversée avec succès.
D'accord, on entend bien les deux messages. Initialisation du décodeur en cours et renversement de l'aiguille avec succès. Et on entend bien. D'accord. L'aiguille qui bascule en position déviée, puis se remet en position directe. Donc ça a l'avantage déjà de tester la sortie, et puis surtout, pour nous qui ne voyons pas, de repérer l'aiguille, en fait. Parce que celle-ci, elle est isolée, la numéro 7. Mais par exemple, si je prends la numéro, je sais pas moi...
7, adresse DCC.
5.
Aiguille 5, appairer le décodeur.
Bon, ben je sais pas où elle est. Parce que il y en a 6 à 8 qui sont les unes derrière les autres. Donc l'idée, c'est que quand je cherche une aiguille, j'appuie sur ce bouton, et puis sur l'aiguille, on a une petite manette qui se déplace en fonction de la position de l'aiguille. Et puis ça me permet de repérer l'aiguille que je manipule. Voilà.
État par défaut. Voie déviée, obligatoire, donner nom valide.
Là, je peux spécifier l'état par défaut. Donc l'intérêt que ça va avoir, c'est que lors de la destruction d'un itinéraire, la fonction est de mettre l'état de l'aiguille par défaut. Donc généralement, moi je mets toutes mes aiguilles en position directe, mais selon certaines configurations, on peut vouloir avoir envie de mettre en position déviée. Donc,
voie directe, obligatoire, donner nom valide, bouton radio, obligatoire, sélectionné.
Voilà.
Cette aiguille est-elle située en pleine voie, non cochée, case à cocher.
Donc ça c'est pareil, c'est une petite case à cocher qui permet de spécifier si l'aiguille est située en pleine ligne ou si c'est une voie de remisage, ce qui permet de faire un tri dans l'application au niveau de la télécommande, je te montrerai tout à l'heure.
Ajouter, bouton.
Et après, je clique sur le bouton ajouter. Bon, je vais pas le faire parce que cette aiguille-là est déjà référencée, mais tu as compris comment ça marche. Maintenant, je vais faire la même chose avec un nouveau matériel.
Accueil, matériel roulant, bouton.
Hop, je clique sur matériel roulant. J'ai devant moi ma RTG que j'ai mis spécialement sur la voie de programmation. Je vais aller cliquer sur le bouton de modification de cette RTG, mais ça ressemble vraiment très pour très au formulaire d'ajout d'une nouvelle machine.
Ajouter un matériel roulant, bouton.
D'accord, donc là j'ai ajouté un matériel roulant.
8 matériels. Tableau, c'est entre BB CC
72. En dessous.
BB 60, BB 22000, BB 60, CC 72000.
J'ai mon tableau.
De 18 RAM compté, j'ai 2000 train track, nouveau matériel, RGP2, 33 RTG, 80.
Ah, ma RTG.
Adresse CV120, vitesse basse vir, adresse CV120, vitesse basse vir, vitesse courante, direction, type automotrice, type, décodeur inconnu, action modifiée, supprimer, modifier, bouton.
Voilà, je vais la modifier. Comme pour le formulaire d'ajout, c'est exactement les mêmes champs, les mêmes fonctions. Donc nous avons
nom du matériel roulant.
Nom du matériel roulant.
RTG.
C'est une RTG.
Adresse CV1.
Adresse CV1, on retrouve du coup la possibilité de configurer son adresse CV1. Je t'ai déjà expliqué à plusieurs reprises que quand tu reçois une nouvelle machine, l'adresse CV1 est de valeur 3. Là, ici,
20, insertion.
Moi, je l'ai déjà configuré, je l'ai mis à 20. Parce que je laisse 3 comme valeur par défaut. Dès que je reçois une nouvelle machine, je peux quand même la poser sur mon réseau et la tester avec, avec ma valeur 3 sans devoir la modifier, quoi.
Lire CVS, bouton.
Alors, tu vois, par exemple, là, je peux lire le CV. D'accord ? Si jamais, par exemple,
20,
donc je mets une autre valeur.
Je mets,
je mets 3.
Adresse 3, insertion à la fin.
D'accord ? Je viens moi-même de modifier le champ de texte
3, insert...
par 3 alors qu'il y avait 20. D'accord ? Et là, je vais lire le CV.
Lire CVS.
De la locomotive. Et là, tu vas entendre.
Puce fabricant, Zimo Electronicus version décodeur.
Voilà, c'est très léger comme bruitage parce qu'elle est un peu loin sur le réseau, mais on a entendu la Z21 faire clac. Et là, si je regarde
20, insertion à la...
dans mon champ de texte consacré au CV1, eh bien, on a bien notre valeur 20 qui est revenue. D'accord ? Je pourrais tout à fait réécrire.
Lire, c'est écrire CV1, bouton.
D'accord ? Si je veux modifier
20, insertion à la...
ma valeur en 3,
0, sélection remplacée.
Je peux le faire.
Adresse 3, lire, c'est écrire CV1, bouton.
Je viens de mettre 3 et là, je. Écrire.
Écriture. Écriture réussie.
Voilà. Et là, je viens d'écrire ma valeur 3 dans mon CV1.
Lire CVS 3, insertion à la fin du texte.
D'accord. Je vais remettre 20.
Adresse CV1, champ chiffre, sélection remplacée 2.
Pour ne pas avoir de problème.
Adresse 20, lire CV, écrire CV1.
Je réécris mon CV1 en valeur 20.
Écriture, écriture réussie.
Donc tu vois, c'est très rapide. Ça réécrit une deuxième fois pour confirmation. Et voilà.
Longueur, en
d'accord. Ensuite, je peux choisir la longueur de la machine.
95,
donc elle fait 95 cm, la RAM. Ça a de l'intérêt quand je vais faire mes règles de sécurité pour éviter des collisions et faire en sorte que ma RAM puisse aller, par exemple, sur une voie de stockage qui est forcément plus grande que sa taille et pas plus petite pour qu'elle, qu'elle engage une aiguille et puis qu'il y ait accident.
Type de roulant.
Type de roulant, eh bien, on est sur une
automotrice.
Automotrice, donc j'ai plusieurs choix.
Menu code, autorail.
Autorail.
Autotracté.
Autotracté.
Sélectionner un type, inconnu. Coche automotrice.
Voilà, j'en ai que 3.
Automotrice. Liste deux éléments, puce fabricant, puce Zimo électronique, 1 sur 2.
Donc ça, c'est les informations qui sont remontées quand j'ai lu les informations du décodeur.
Puce version décodeur, 4, 2, fin de liste, étoile vitesse basse, entre 5 et 20.
Là, nous avons la possibilité de configurer les types de, enfin, les valeurs de vitesse. Les valeurs de vitesse, c'est tout simplement la possibilité, par le biais d'un raccourci sur ma télécommande, de dire à ma machine qu'elle roulera en vitesse basse à 30, donc sur une échelle de 128. Donc ça, c'est ma vitesse basse. Et après, j'ai ma vitesse moyenne.
Étoile vitesse moyenne, 70.
J'ai mis 70 sur 128.
Reverse, inversion de sens, non coché, case à
cocher. Alors, cette case à cocher, je l'ai rajoutée très récemment parce que j'avais besoin, dans le cadre justement de pouvoir repérer une machine sur le réseau, de savoir qu'elle roule toujours dans le même sens que les autres. Alors, je t'explique. On a sur un train, on n'a pas d'avant-arrière. On tractionne d'un côté, dans un sens ou on tractionne dans l'autre. Selon le sens où tu vas poser ta machine sur les rails, si tu poses par exemple la cabine B sur ma gauche et la cabine A sur ma droite, quand je vais tractionner dans un sens, ça ira vers la gauche. Si je retourne ma locomotive et que je tractionne dans le même sens, ça ira à droite. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti du principe que les machines, tant qu'on tractionne dans le même sens, eh ben, elles vont forcément dans le même sens. Et pour se repérer, j'ai sur ma télécommande ici, d'accord, un bouton à bascule. D'accord ? Donc, quand ça fait clac-clac, on tractionne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et quand ça fait, on tractionne dans le sens des aiguilles d'une montre. Eh ben, j'ai une de mes machines que je préfère mettre dans un sens et pas dans l'autre. Je sais pas, je dis une bêtise. Par exemple, j'ai une machine sur mon réseau là où il y a un crochet d'attelage que d'un côté. Bon, bah forcément, elle sera devant. Elle pourra être mise que dans un sens. Et bien, j'ai plus qu'à cocher ma case pour que la traction par défaut soit inversée, et ce qui me permet, moi, d'avoir, dans tous les cas, le bon sens de traction. Je ne sais pas si tu as bien compris ce que je voulais t'expliquer, mais voilà, c'est super important d'avoir ce petit truc-là.
Voici attribution d'un canton de remisage.
Ensuite, je peux attribuer cette machine à un canton de remisage. Ça aura de l'intérêt toujours dans le même but de calculer l'itinéraire d'un train et faire en sorte que il parte d'un canton et que je sache qui il est quand il est en plein milieu du réseau. Par exemple, si il est parti dans le canton, il part du canton C, qu'il a passé à X secondes la zone d'aiguille, puis à X secondes le canton 3, puis à X secondes le canton 4, etc., etc., je sais que à X secondes, le train était à tel endroit, et voilà. Uniquement dans le but de repérer mes trains sur le réseau, puisque je n'ai pas encore réussi à développer ma petite fonction qui me permet de lire ce qu'on appelle RAICOM, qui est un protocole qui permet d'avoir des informations beaucoup plus précises sur la machine qui occupe le canton. Donc je vais y travailler, mais voilà, pour l'instant ça marche pas.
Modifier, bouton.
Et après donc j'ai le bouton modifier, ou si c'était une nouvelle machine, j'aurai le bouton ajouter. Ok, maintenant que on a réussi à configurer notre machine, qu'on a ajouté toutes les aiguilles, je t'ai pas montré les cantons, mais c'est le même principe. Toujours en digital, on va parler d'adressage. Donc la gestion des cantons, c'est exactement la même chose. On a un détecteur de... Alors c'est pas des adresses, mais c'est des sorties du module de détection. Donc c'est la même chose, j'ai deux modules de détection. Un qui est numéroté 1, le deuxième qui est numéroté 2. Et les sorties, c'est de 1 à 8. Et dans ma base de données, j'ai référencé 1 pour le module, 1 pour la sortie. Donc si je prends la voie H, eh bien la voie H est adressée sur le module 1, sortie 8. Si par contre je te prends la voie L, elle est adressée sur le module 2, sortie 4. Voilà, en gros c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Il est temps maintenant de te montrer la télécommande. Alors la télécommande, c'est, je t'en ai parlé très brièvement au début, donc c'est un petit clavier de gamer avec plein de touches, clavier AZERTY, classique, sauf que certaines touches ne sont pas placées aux endroits où tu penses qu'elles le sont. Pour te donner un ordre d'idée, physiquement, on a 4 lignes de 12 touches. Et en dessous de ces 4 lignes, on a 6 touches séparées par un espace. Ensuite, on a encore 6 touches séparées par un espace, et après on a une touche, 2 touches séparées par un espace. Et pour te donner un ordre d'idée, la touche espace, eh bien, elle est dans le coin, justement, qui est formé par la dernière ligne de 12 touches et la première ligne de 6 touches à gauche. D'accord ? Je ne sais pas si c'est bien clair, mais voilà. Et du coup, cette configuration me permet vraiment de configurer mon application de manière extrêmement ergonomique. Par exemple, dans mon application, j'ai trois modes. Je vais presser le bouton qui correspond au tiret, et ce tiret, il est situé tout en bas de mon clavier. C'est une touche qui est unique, qui est seule, en bas à droite. Donc si j'appuie dessus...
Itinéraire, matériel roulant, aiguille.
D'accord, je peux basculer donc sur ces trois modes, itinéraire, aiguille, matériel roulant. Donc là, je suis sur aiguille, par exemple. Je veux manipuler une aiguille toute seule. Donc, je vais presser la touche virgule.
Pleine ligne.
D'accord. Et cette touche virgule, elle bascule entre
remisage, pleine ligne
et pleine ligne. L'avantage qu'on a là-dessus, c'est que j'ai 13 aiguilles actuellement sur mon réseau. Et j'en aurai probablement 20 quand j'aurai terminé tout mon réseau à 2 étages. Pour aller manipuler la 20e aiguille ou la 15e aiguille, il faut que je passe toutes les aiguilles une par une à l'aide de mon bouton que j'ai configuré pour plus ou moins. Donc plus c'est P.
Accès gare cachée 2.
D'accord. Et moins c'est M.
Accès gare cachée.
Là je suis sur les pleines lignes, donc j'en ai que 3.
Accès gare cachée. Accès voie programmation. Accès gare cachée.
Et si j'avais d'autres aiguilles en pleine ligne, elles seraient regroupées ici. Donc j'en aurais J'en aurais pas 20, mais j'en aurais peut-être 6, et ce serait peut-être plus facile à accéder plus rapidement à ces aiguilles de pleine ligne. Et puis si je vais dans les remisages, j'appuie sur mon bouton virgule, et là,
accès voie A, accès voie B.
D'accord ? Et après, je peux les manipuler avec X et C. Alors, il y a un petit délai, il faut que je règle ce petit délai parce que c'est un peu chiant, tu vois, quand je vais appuyer dessus. Voilà, donc là, je manipule l'aiguille.
Accès voie B.
Ah, voilà, l'aiguille B. Accès voie B. Donc, C pour mettre en position directe, X pour mettre en position déviée, et V pour m'énoncer l'aiguille que je manipule. Et après, bah voilà, je peux...
Accès voie E.
Hop.
Accès voie GF. Accès voie I.
D'accord.
Accès voie intermédiaire C et D.
Voilà, donc là, j'ai manipulé quelques aiguilles. Ensuite, j'ai...
Itinéraire.
Itinéraire. Donc, pareil.
Accès voie B.
Je vais passer mes itinéraires...
Accès voie C. Accès voie D. Accès voie E.
D'accord. Avec P et M...
Accès voie D. Accès voie C.
Pour... redescendre. Là, moi, ma RTG, elle doit aller se ranger sur la voie C. Eh bien, je vais appuyer sur C. Voilà. Et elle vient de basculer les aiguilles dont j'ai besoin pour aller sur la voie C. Si je veux détruire l'itinéraire, j'appuie sur X. Voilà. Et là, elle m'a détruit tout l'itinéraire en remettant toutes mes aiguilles par défaut. Tracer un itinéraire va manipuler les aiguilles simplement qui seront empruntées par le train pour aller à la destination. Détruire un itinéraire va remettre toutes mes aiguilles par défaut.
Matériel roulant.
Donc là,
VP 67000 avec Citerne. RTG.
Ma RTG est bien là. Je me mets dans... le mode traction dans le sens des aiguilles d'une montre, et puis je vais tractionner en mode en vitesse basse. Je te laisse profiter du son parce que c'est vraiment extraordinaire.
Basse.
Voilà, donc là on est parti. J'ai accéléré parce que sinon on n'a pas fini. Et je te laisse écouter quand quand le train passera en face de moi. On entend le tac-tac caractéristique. Voilà, donc là le train arrive sur la courbe de droite.
Itinéraire.
Je vérifie mon itinéraire.
Accès voie C.
Voilà, en plus je l'avais détruit.
Matériel roulant.
Et là, mon train arrive tranquillou. Je te laisse écouter le kiff total. Et voilà, le train est arrivé sur la voie C.
Arrêt.
D'accord, et si je teste...
Voie C, occupé.
Je suis bien occupé. Bien évidemment, avec ma télécommande, je peux piloter mon train. Tiens, je remets hop, le sens de traction vers la sortie. Mais je peux aussi klaxonner, ça va sans dire. Hein. Donc c'est quand même vachement cool. Je dois avouer que je suis plutôt fier de moi. Alors maintenant, eh ben on va éteindre.
Aiguille.
Hop.
Le module GRFMA va être déconnecté. Souhaitez-vous... du module en cours. Veuillez patienter 15 secondes avant d'éteindre électriquement.
Voilà. Donc là, j'éteins mon petit clavier. Et on entend, voilà, l'enceinte qui vient de s'éteindre, qui nous indique, bien évidemment, que le pi vient de s'arrêter. Et j'ai plus qu'à l'éteindre électriquement. La création de ce module, c'est pas un caprice. C'est vraiment la réponse à un besoin que j'avais pour pouvoir pratiquer ma passion. Aujourd'hui, c'est pas faute d'avoir essayé, il n'y a rien d'accessible. J'ai testé des logiciels, ils ne sont pas accessibles. La télécommande qui est fournie avec, on peut s'en servir, hein, mais on est très très limité dans son usage. Donc moi, vraiment, ma volonté, c'était de pouvoir créer une sorte de module accessible à tous, que ce soit aux personnes déficientes visuelles d'abord, mais aussi aux personnes valides, puisqu'en fait, il n'y a pas besoin d'écran. Il y a juste besoin d'un petit clavier, un peu de mémoire. Ma volonté, un jour, c'est de pouvoir travailler avec quelqu'un qui puisse me produire une sorte de télécommande avec, par exemple, P et M avec des flèches haut et bas, la virgule avec, je sais pas moi, deux flèches qui vont vers la gauche et la droite pour symboliser justement l'attraction d'un côté ou dans un autre. Prototyper une sorte de clavier que les gens voyants pourraient regarder et plus facilement se repérer qu'avec des touches AZERTY. Moi, je le connais par cœur, mon clavier, donc ça se passe très bien, mais on ne peut pas encore dire que ce soit optimisé pour tous. C'est devenu accessible, mais ce n'est pas encore optimisé. Voilà. Moi, vraiment, ma volonté, un jour, c'est de pouvoir me séparer de ce clavier et d'avoir un petit boîtier avec ses pictogrammes pour spécifier, pour expliquer un petit peu à quoi correspondent les touches. Quoi. Voilà. Et dernière chose, j'ai contacté le fournisseur de ma centrale numérique auquel j'avais suggéré quelques petites modifications sur sa télécommande. Pas grand-chose, hein. J'avais pas demandé la lune, j'avais juste demandé savoir si c'était possible de bloquer les menus qui ne soient pas déroulants à l'infini. Ce qui nous permet d'avoir des repères. D'accord ? Quand tu es dans un menu et qu'il bloque, tu sais que pour aller dans ajouter une locomotive, il faut descendre 3 fois. Si jamais c'est pas bloqué, tu tournes en boucle, mon petit pote. Et du coup, tu sais jamais où t'es. Rien que ça, hein. J'ai juste demandé s'il y avait possibilité de faire ça. Et on m'a simplement répondu qu'en fait, ça n'était pas possible parce que le fait de faire ce type de modification, ça impacterait plus de 300 000 utilisateurs. Et en gros, après, ils m'ont souhaité bon train. Voilà, ça m'avait calmé, hein, je t'avoue, j'avais été refroidi par ce type de réflexion et de retour. Pas très professionnel, pas très inclusif, pas très respectueux même, je dirais. Et c'est pourquoi je me suis lancé dans cette réalisation. Ça vient faire 8 mois, hein, que je suis dessus. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus et voir comment j'ai avancé sur ce projet, j'ai fait un petit blog sur mon site internet, tu verras, dans ma passion du modélisme, il y a un petit lien vers ce blog. Et puis si tu as envie de lire un petit peu tout ça, c'est complémentaire, je pense, à cet épisode de podcast. Merci une fois de plus de m'avoir suivi dans mes aventures. C'était Manu pour Audio de Bord.
Besoin de prendre contact ? WhatsApp plus 33 6 20 59 38 97. Par Facebook, Instagram, Threads ou TikTok, @dpkprod. DPKprod, du son à votre image. À votre...